Maître Habiba Touré, bonjour.
Bonjour.
Où est-ce qu'on en est avec la demande de libération provisoire de Laurent Gbagbo ?
Bah écoutez, pour l'instant, comme vous le savez, on n'est pas au stade d'une nouvelle demande de mise en liberté provisoire. On est au stade d'analyser, en tout cas la défense est au stade d'analyser les éléments de preuve et le mémoire soumis par le bureau du procureur, Madame Bensouda, à la suite de la fin des témoignages de tous ces témoins. Dès lors, c'est plutôt ces documents que la défense actuellement analyse en vue de présenter à son tour ses observations. Donc voilà ce que je peux vous dire quant au niveau de la procédure.
Ouais. Vous vous êtes basé sur quels éléments pour solliciter cette demande de liberté provisoire ?
Non, comme je vous l'indiquais, aujourd'hui, on n'est pas au stade de la demande de mise en liberté provisoire. Maintenant, s'il doit y avoir une demande de mise en liberté provisoire, il est évident qu'elle sera fondée, mais comme d'ailleurs les précédentes, mais au regard de l'actualité judiciaire, sur le fait aussi que le bureau du procureur a fini de présenter tous ses témoins. Donc une mise en liberté du président Laurent Gbagbo ne pourrait pas nuire ou gêner les témoins, ou on ne peut même pas faire état de pression éventuelle sur des témoins, vu qu'ils sont déjà tous passés. Donc aujourd'hui, au regard de la durée de la procédure, du fait quand même que le président Laurent Gbagbo est présumé innocent, et outre le fait que tous les témoins de l'accusation sont déjà passés et qu'il revient maintenant aux témoins de la défense de passer, rien ne justifie le maintien en détention du président Laurent Gbagbo. Donc il est évident qu'au regard de tous ces éléments, nous espérons bien évidemment que par la suite, une mise en liberté provisoire puisse aboutir à la libération effective du président Laurent Gbagbo.
Oui, l'année dernière, nos confrères de Jeune Afrique avaient laissé entendre dans l'une de leurs parutions que Laurent Gbagbo aurait choisi la Belgique pour vivre en cas de liberté provisoire.
Bon, ça, je l'ai vu comme vous. Hein. Alors, bien évidemment, c'est une rumeur. Je ne sais pas trop sur quoi se fondent vos confrères de Jeune Afrique, hein, parce que pour l'instant, ce n'est qu'une rumeur. La question fondamentale aujourd'hui qui se pose à la défense, outre le fait aujourd'hui de répliquer aux éléments de preuve de Madame le procureur, c'est surtout d'obtenir une mise en liberté provisoire sur les arguments que je vous ai indiqués et bien d'autres, bien évidemment. C'est que par la suite, qu'éventuellement, la question du pays va se poser. Donc c'est à mon avis, j'estime que pour nous ce n'est qu'une rumeur fondée sur pas grand chose, mais bon, une rumeur journalistique.
Emmanuel Altit, qui est l'un de vos confrères, qui est aussi conseiller de Laurent Gbagbo, pense qu'il y a du dilatoire dans le dossier de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous partagez son point de vue ?
Mais écoutez, ça fait 7 ans que ça dure.
Peut-être que c'est la procédure de la CPI qui est comme ça.
Oui, mais dans ce cas-là, vous ne privez pas un homme de 7 ans de liberté, c'est 7 ans de sa vie. Je pense qu'il faut une certaine logique. Vous prenez tout système judiciaire, dans tous les systèmes judiciaires dans les pays occidentaux, vous verrez que une détention de 7 ans est anormalement longue. C'est même contraire même à la position de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est un temps anormalement long. Donc on peut nous expliquer qu'effectivement la procédure est particulière à la CPI, que les faits reprochés sont graves, certes. Mais il demeure présumé innocent. Ça, il ne faut pas l'oublier tout de même. Donc, dès lors qu'une procédure est aussi longue, qu'il y a des suspensions d'audience motivées par le fait que la Cour n'a pas les moyens de poursuivre les audiences et que donc ça nécessite des suspensions d'audience pour reprendre, comment pouvez-vous justifier qu'on prive un homme de sa liberté tout en les maintenant dans les chaînes de la détention en faisant état de manque de moyens de la Cour ? Ce n'est pas normal. Ce n'est même pas un argument juridique. Dès lors, évidemment qu'il y a du dilatoire, ou en tout cas il est manifeste, mais ça se fait au détriment de la liberté d'un homme qui est présumé innocent.
Jusqu'à présent, les témoins donc, de la défense, vous le disiez, ne sont pas passés devant la barre. Vous comptez, ou bien vous espérez les voir devant la barre sous peu ?
Écoutez, pour l'instant, comme je vous l'indiquais, la première étape, parce que le calendrier n'a pas encore été déterminé par la Cour, aujourd'hui, ce que la Cour demande des parties, et donc des défenses respectives du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Bégoudé, c'est de répliquer, de faire leurs observations, encore une fois, sur le mémoire du bureau du procureur. Ce n'est qu'après, et au regard de ce que le bureau du procureur indique, qu'une liste de témoins sera ou non soumise. Mais pour l'instant, les défenses respectives analysent les éléments et y répliquera. Donc, je souffrais que pour l'instant, on ne puisse vous donner plus d'éléments. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a une phase de travail intense puisque les délais sont assez courts.
Ouais. Les témoins qui se sont succédés à la barre se sont quelquefois contredits. Pour vous, c'est la preuve qu'il s'agit là d'un procès politique ?
Non, c'est pas le fait que des témoins se contredisent qui montre que c'est un procès politique. Vous savez, même dans des affaires de droit commun, des témoins peuvent se contredire. Donc ce n'est pas ça qui, pour moi, montre que c'est un procès politique. Ce qui malheureusement montre, en tout cas, que c'est un procès politique, c'est l'attitude du bureau du procureur et du procureur, qu'il s'agit du procureur Ocampo à l'époque, que du procureur Bensouda aujourd'hui. Le procureur Ocampo, vous avez dû voir vous-même que vos confrères du journal Mediapart sont eux-mêmes fait l'écho de tous les scandales qui affectent le procureur Ocampo et du fait qu'il se soit finalement intéressé au cas du président Laurent Gbagbo, sollicitant même son maintien en détention alors qu'il n'était même pas saisi et que la Cour pénale internationale n'avait même pas encore pris l'affaire. Donc dès lors, on voit bien que l'attitude du bureau du procureur était une attitude parfaitement partisane, voire politique, dans la mesure où on prend attache avec l'adversaire du président Laurent Gbagbo qui a été installé au pouvoir et on lui demande de maintenir sous l'issue de la détention le président Laurent Gbagbo, détention qui de toute manière dans la légalité se pose puisqu'il n'était pas, au moment où il était détenu, il n'était pas inculpé, il n'était pas mis en examen, donc c'était une détention arbitraire. Donc c'est ça qui nous fait dire que l'attitude du procureur est pour le moins problématique. Autre chose, on poursuit le président Laurent Gbagbo pour une crise post-électorale et sa procédure à lui concerne 300 victimes. Avec les ayants droit, c'est-à-dire les héritiers de personnes décédées, on arrive à 600 victimes pour une crise qui a fait plus de 3000 morts officiellement. Bon, écoutez, avec une enquête concernant le président Laurent Gbagbo et les faits qui lui sont reprochés, qui n'a duré qu'un mois avant l'émission de mandat d'arrêt, et de l'autre côté, après sept ans de procédure, concrètement, on voit de l'autre côté que le bureau du procureur et 7 ans d'enquête, on voit que le bureau du procureur n'a délivré aucun mandat d'arrêt, par exemple sur le massacre de Diokwe, sur ce qui arrive à Naïbli. Aucun mandat d'arrêt n'a été délivré. Le bureau du procureur, la procureure, elle sait très bien qu'il y a des milliers de gens qui ont tout perdu, qui ont été violés, massacrés, persécutés, et qui sont aujourd'hui parqués dans des camps de réfugiés, notamment au Ghana et au Togo. Mais le bureau du procureur ne fait rien pour ces gens-là qui réclament justice. Donc on voit bien, c'est cette manière de se comporter qui met en évidence le caractère politique. Car si on se soucie des victimes, on se soucie de toutes les victimes. On ne fait pas de distinction. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a besoin de se réconcilier. Pour se réconcilier, il faut une vérité. Et cette vérité, c'est aussi prendre en considération toutes les victimes et pas avoir une vision manichéenne et faire croire que... Et accabler le président Gbagbo de 600 victimes, de 300 victimes directes, pour lesquelles on a du mal à apporter des preuves d'ailleurs de sa culpabilité, alors que vous avez les survivants, vous avez des rapports d'ONG, vous avez des témoignages de gens qui vous parlent de ce qui s'est passé à Diokwe. C'est un génocide qui est intervenu. Il est parfaitement scandaleux et irresponsable de la part de Madame le procureur de ne pas rendre justice à ces victimes.
Ouais, donc si je vous comprends bien, vous souhaitez que également ceux qui sont impliqués dans les violences dans le camp Ouattara puissent également répondre de leurs actes.
Je veux la justice pour toutes les victimes. Et évidemment, que ce soit M. Ouattara lui-même, qu'il s'agisse de M. Soro, qu'il s'agisse de Comzone ou de toute autre personne suspectée d'avoir accompli de graves crimes contre l'humanité, doivent pouvoir répondre de leurs actes devant la Cour pénale internationale. Sinon, vous ne donnerez l'impression que cette Cour n'est juste là que pour mettre à l'ombre de redoutables adversaires politiques et pas pour rendre justice aux victimes. Donc, pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la réconciliation, vous ne pouvez pas faire comme s'il n'y avait pas des gens qui étaient parqués dans des camps de réfugiés dans toute la sous-région. Vous ne pouvez pas faire comme si Diokwe n'avait pas existé. Vous ne pouvez pas faire comme si Bloléquin, Guy Trozon, toutes ces zones-là n'avaient pas existé. Ce n'est pas possible. Il faut rendre, à non quoi coûter et autres, il faut rendre justice à toutes les victimes. Bon, le silence gardé par le bureau du procureur montre, excusez-moi, mais la rend quelque part coupable. Parce que c'est un silence coupable. C'est une inertie coupable. Parce qu'elle fait du mal. Elle fait du mal aux victimes qui désespèrent de la justice et qui pourraient demain se faire justice elles-mêmes. Et à ce moment-là, bien évidemment, ce serait gravissime pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la stabilité du pays et puis même pour la cohésion sociale et nationale. C'est fondamental que la justice passe. Donc si la Cour pénale internationale, surtout si le bureau du procureur et la procureure avoir en tête, ne veut pas avoir l'impression de faire plus de politique qu'autre chose, elle doit rendre justice. Et puis, petite précision quand même, sous le président Laurent Gbagbo, qu'on présente comme un vilain dictateur qui massacrait son peuple, il n'y a jamais eu de camp de réfugiés ivoiriens dans toute la sous-région.
Oui, justement, vous me parliez des réfugiés ivoiriens au Ghana. Est-ce que vous pensez que les dossiers qui sont en train de constituer sont des dossiers crédibles?
Mais écoutez, si quand vous avez été violé, quand vous avez été massacré, quand vous avez perdu toute votre famille, que vous avez perdu des enfants, est-ce qu'on peut remettre véritablement en question leur crédibilité? À moins de sombrer dans le négationnisme et nous dire que Diokwe n'a jamais existé, qu'il n'y a pas eu de massacre à Diokwe, qu'il n'y a pas eu de massacre à Naïbli et que finalement les vidéos sont des inventions. À moins de sombrer dans le négationnisme. Donc évidemment que c'est des éléments crédibles. La seule existence de ces victimes, de ces rescapés, constitue des preuves crédibles qui témoignent des exactions graves qui sont intervenues en Côte d'Ivoire. Et il ne faut pas les passer sous silence.
Maître Habiba Touré, il y a quelques mois, certains chefs d'État africains ont initié une pétition pour exiger la libération de votre client, Laurent Gbagbo. Est-ce qu'on en est avec cette pétition?
Écoutez, la pétition, je crois qu'elle avait réuni quand même des millions de personnes, ce qui est une très bonne chose. On a vu effectivement aussi que le président Laurent Gbagbo était assez populaire hein, sur le continent africain, puisque ce qu'il vit est perçu comme une véritable injustice, ce qui n'est pas faux, parce qu'il suffit de regarder un peu le procès pour se rendre compte que c'est un petit peu aberrant ce qui lui est fait. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a une procédure judiciaire qui n'effraie pas le président Laurent Gbagbo, mais pour laquelle il demande une certaine équité et qu'on respecte sa présomption d'innocence.
Et revenons donc sur l'affaire des Ivoiriens réfugiés au Ghana. Quand est-ce qu'ils vont déposer les dossiers incriminant le régime actuel en place à Abidjan?
Alors, vous avez d'abord un peu plus de 1000 victimes qui ont rempli des dossiers qui ont été déposés auprès de la Cour pénale internationale en janvier 2016. Vous avez ensuite 3000 qui ont également dénoncé des crimes pour dénoncer les graves exactions qu'elles ont subies en octobre 2016 et en janvier 2017. Donc ça fait en tout plus de 4000 victimes que mon confrère Maître Dadjé et moi-même avons aidé pour qu'elles obtiennent justice, en tout cas en déposant leur dossier dénonciation de crime auprès de la Cour pénale internationale. Mon confrère Maître Dadjé était encore récemment au Ghana pour expliquer, informer les autres réfugiés, donc pour informer ceux qui ont rempli les dossiers, mais également ceux qui ne les ont pas remplis, de la procédure CPI, de ce qui s'y passe, de comment cela fonctionne et de leurs droits, finalement, dans le cadre, si une telle procédure devait être enclenchée à la suite des faits dénoncés. Et donc, à cette occasion, il y a encore des milliers de victimes qui, jusqu'à aujourd'hui, continuent de remplir des dossiers parce qu'elles toutes sont très attachées à l'idée d'être reconnues comme victimes et que justice leur soit rendue.
Connaissant les modes de saisine de la Cour pénale internationale, vous pensez vraiment, Maître Habiba Touré, que ce dossier ou bien que cette saisine pourrait prospérer?
Alors, écoutez, moi, la chose, elle est assez claire. C'est-à-dire que les victimes, la Cour pénale internationale avait été instituée initialement sur l'idée que on devait mettre fin à l'impunité et que justice devait être rendue aux victimes sans qu'on puisse prendre en considération le fait que les bourreaux soient des chefs d'État, des militaires, des hauts gradés de l'armée ou des chefs d'État en exercice ou pas d'ailleurs. C'était ça le principe. Qu'est-ce qu'on constate dans le dossier ivoirien? C'est que des milliers de victimes depuis 2002 réclament justice sans que justice leur soit rendue. Donc les victimes, il ne s'agit pas pour elles de se bercer d'illusions, il s'agit que chacun assume ses responsabilités devant la justice et devant l'histoire. Elles vont continuer à dénoncer les crimes qu'elles ont subis parce qu'elles y tiennent. Maintenant, si Madame le procureur décide de ne rien faire, après tout c'est son droit, mais elle sera tenue responsable des graves exactions ou de la vengeance que pourraient vouloir les victimes d'aujourd'hui. Parce que les victimes d'aujourd'hui peuvent se transformer en bourreaux de demain. Vous savez, quand on désespère de la justice, on finit par se venger. Et ce n'est jamais bon pour une unité nationale. Donc chacun doit être mis face à ses responsabilités et on doit sortir de cette hypocrisie. Si Madame le procureur estime qu'effectivement elle lutte pour les victimes comme elle le prétend et qu'elle veut rendre justice aux victimes comme elle le prétend, dans ce cas-là, elle engagera des poursuites. Si elle ne le fait pas, tout le monde pourra constater l'inertie et donc finalement une complicité passive du bureau du procureur dans le dossier ivoirien.
Et où est-ce qu'on en est avec le dossier de Charles Bégoudé ?
Mais il en est au même niveau que celui du président. C'est-à-dire que les deux défenses, comme je vous l'indiquais, doivent analyser en ce moment le mémoire présenté et les annexes présentées par l'accusation et feront toutes les deux leurs observations.
Et à quand la prochaine comparution de Laurent Gbagbo et de Charles Bégoudé ?
Non, nous n'avons pas encore de date. Comme je vous l'ai dit, pour l'instant, on est au stade d'analyse et par la suite de déposer les observations. Donc il n'y a pas encore de date qui a été communiquée aux parties pour la reprise du procès.
Peut-être avant la fin de l'année 2018.
Oui, c'est fort possible.
Bien, Maître Abiba Touré, merci.
Merci à vous.